BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, un petit peu plus de 19h. Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la deuxième heure de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h. Sur BFM Business et dans l'actualité ce soir, eh bien, on a cette réunion à haute tension, réunion compliquée entre Bruno Le Maire et le ministre chinois du commerce de passage à Paris aujourd'hui. On va évidemment parler voitures électriques, panneaux solaires ou encore importation de cognac en Chine. La France, Bruno Le Maire notamment, plaide, vous allez l'entendre, pour une préférence européenne dans les appels d'offres publics, référence évidemment à la Chine, mais la France doit aussi ménager la Chine à un mois de la visite de Xi Jinping en France. Ce sera début mai. On en parle ce soir avec nos experts Cyril Lachèvre, fondateur de l'agence de communication Silence, Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternative Économique, et Charles-Henri Dovini, managing partner de Reputation Age. Avec eux, on va essayer de répondre à cette question. On en parlait il y a un instant avec nos experts, qui revient chaque année au même moment, au printemps. Est-ce que le patron de Stellantis est trop payé? Est-ce que 36 millions d'euros, c'est justifié pour rémunérer les efforts et les résultats de Carlos Tavares à la tête de Stellantis? On en parle avec nos experts en direct jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de parler de Stellantis, on va d'abord parler d'Atos et de cette réunion cruciale pour l'avenir de l'entreprise. Bonsoir Mathieu Pechberti. Atos réunit en ce moment même ses créanciers pour leur présenter son plan de sauvetage qui sera dévoilé demain matin avant bourse. On sait qu'il y a plus de 4,5 milliards d'euros de dettes à restructurer, mais on sait déjà qu'une grosse partie de cette dette va être annulée et qu'une augmentation de capital massive est inévitable, Mathieu.
Oui, exactement. Cette réunion est très importante puisque les créanciers vont enfin apprendre à quelle sauce ils vont être mangés. Finalement, les banques et les fonds d'investissement créanciers d'Atos, la société va leur annoncer son plan de restructuration. Donc effectivement, comment elle voit l'avenir pour redevenir rentable ou en tout cas fonctionner comme une entreprise normale qui a perdu plusieurs milliards d'euros sur ces trois dernières années. Il y a effectivement un peu plus de 4,5 milliards d'euros de dettes. Les investisseurs globalement et les créanciers s'attendent à évidemment à une annulation de la dette très très forte, environ la moitié. On n'a pas de chiffres aujourd'hui, il y a différents scénarios, mais c'est en gros ce à quoi ils s'attendent, et le reste des dettes serait refinancé, donc rééchelonné sur plusieurs années, et en contrepartie il y aurait effectivement une augmentation de capital. Là encore, les chiffres varient beaucoup, on est entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour les plus pessimistes, et les repreneurs pourront ensuite se manifester auprès de l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou. Le premier d'entre eux qui se manifeste depuis maintenant plusieurs semaines, c'est David Layani, le fondateur de OnePoint, premier actionnaire d'Atos, qui vient de s'associer avec l'investisseur français Walter Butler.
Voilà, alors ça c'est l'annonce des derniers jours. On a effectivement ce tandem Butler-Layani pour la reprise et la relance d'Atos. On a aussi, d'après vos informations, l'État et Dassault qui sont à la manœuvre autour des activités souveraines d'Atos.
Oui, exactement. Vous savez que Bruno Le Maire avait dit qu'il surveillait et qu'il allait essayer de construire une solution nationale il y a 15 jours autour de ses activités, à la fois de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Ces contrats très importants avec notamment l'armée française pour la dissuasion nucléaire, pour les sous-marins, même pour les centrales nucléaires de Neuf. Et donc, il faut qu'il reste français et en tout cas proche de l'État. Airbus avait regardé à abandonner et donc maintenant, l'État reprend les choses en main. C'est directement l'agence des participation de l'État, l'administration de Bercy qui se plonge dans le dossier et qui le reprend en main, orchestre cette solution nationale et essaye, et en tout cas pousse le groupe Dassault Aviation, évidemment très proche de l'État dans l'armement, pour être à la manœuvre. C'est une solution qui ne plaît pas forcément à Dassault Aviation à la base, qui ne souhaite pas reprendre ses activités, mais en tout cas une source proche du groupe nous dit clairement qu'il fera un effort pour que ses activités restent françaises dans la mesure où elles entrent dans la conception du Rafale.
Merci beaucoup Mathieu. 19h06, on poursuit avec cette mise en garde des États-Unis et de la France face à la déferlante de produits chinois. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se sont exprimés tous les deux aujourd'hui sur le sujet. Et vous allez voir que les deux camps ont le même argument face à la concurrence chinoise. Timothée Marozet.
Tous unis face à la Chine, c'est ce qui ressort à quelques heures d'intervalle entre les discours américains et français. À Pékin d'abord, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que les États-Unis ne laisseront pas leurs industries se faire étouffer par les produits chinois à bas coût.
Le marché mondial est inondé par des produits chinois au prix artificiellement bas, ce qui remet en question la viabilité des entreprises américaines et étrangères. Il y a comme un air de déjà-vu.
À Paris, même son de cloche du côté de Bruno Le Maire, autour de ses homologues italiens et allemands. Il souhaite que l'Europe montre les dents en simplifiant ses normes et en augmentant sa compétitivité. Il dénonce un retard européen face à la Chine.
La Chine et les États-Unis ne nous attendront pas. Et la Chine et les États-Unis ne nous feront aucun cadeau. Nous sommes à un moment critique entre le protectionnisme américain et le risque de voir arriver sur le marché européen des produits chinois à prix cassé.
Le ministre de l'économie a rencontré ensuite le ministre chinois du commerce de passage à Paris. Au cœur des discussions, les voitures électriques chinoises. Là encore, un point de tension depuis plusieurs mois, l'UE ayant décidé de les taxer lourdement pour concurrence déloyale.
Timothée Marouzet, bientôt 19h08. On poursuit avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors. Bonsoir Caroline Morisseau. Réunion de la dernière chance, les syndicats et le patronat sont réunis depuis 9h du matin pour tenter d'arracher un accord, mais visiblement, on n'y est toujours pas, Caroline.
C'est ça, chacun campe pour l'instant sur une position très divergente. Les organisations patronales veulent toujours absolument instaurer un nouveau CDI senior, enfin qu'ils ont rebaptisé pour faire passer la pilule, mais réservé aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans et qui leur permettrait de rompre ce contrat une fois la retraite à taux plein du salarié atteint. Les syndicats n'en veulent absolument pas. Pour eux, c'est une ligne rouge. Derrière, le MEDEF et la CPME refusent toujours d'instaurer le fameux compte épargne temps universel qui permettrait aux salariés de stocker des congés et de les conserver d'une entreprise à l'autre. Autre sujet, autre divergence, le patronat est prêt à ce que l'emploi des seniors devienne un sujet de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Là, les syndicats demandent à ce que ce soit dans toutes les entreprises des 50 salariés, puis surtout, ils veulent que soient instaurées des pénalités pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, ce qu'évidemment le patronat refuse.
Bon, donc en gros, on est d'accord sur rien, et cet après-midi encore, visiblement, on était loin de trouver un consensus.
C'est ça, les discussions sont laborieuses, nous ont dit les syndicats il y a encore quelques heures, donc les discussions pourraient s'éterniser jusqu'à tard dans la nuit, et c'est à ce moment-là que chacun pourrait lâcher du lest, en tout cas ce qu'espèrent les responsables syndicaux. On sait que c'est souvent dans la dernière ligne droite que se conclut un accord, et on sait aussi que patronat comme syndicat ont tout intérêt à s'entendre, parce que de cet accord dépend derrière le fait que le gouvernement valide l'accord sur l'assurance chômage qui a été conclu entre les partenaires sociaux en novembre dernier. Or, dans cet accord, le patronat a obtenu une baisse des cotisations de 0,05%, ce qui est peut-être de nature à les convaincre de conclure un accord sur l'emploi des seniors. Et puis cela enverra évidemment un très mauvais signal à un moment, un signal de divergence, d'incapacité à s'entendre des partenaires sociaux, à un moment où le gouvernement promet une nouvelle réforme de l'assurance chômage et où il menace régulièrement de reprendre la main sur la gouvernance de l'Unédit.
Merci beaucoup Caroline. 19h10, on parle maintenant d'immobilier. Bonsoir Léo Dumas. Léo, le réseau Century 21 vient de publier son baromètre du premier trimestre et visiblement le marché sort un peu la tête de l'eau avec des prix qui continuent de baisser, Léo.
C'est la première bonne nouvelle, moins 3% environ sur un an au niveau national. Et si on regarde seulement à Paris, c'est moins 9%. On est désormais à 9 100 € le mètre carré. En fait, les prix grimpent dans trois régions uniquement, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Et ils baissent partout ailleurs. Deuxième raison d'espérer pour le marché immobilier, la demande semble un peu plus vive. Les indicateurs de Century montrent que les acquéreurs relancent leurs projets et leurs démarches. Mais ce n'est pas encore assez pour redresser le marché. Les premiers effets positifs de ces chiffres sont attendus pour la fin d'année, car au premier trimestre, même si elle ralentit, la chute des ventes se poursuit, moins 11% sur un an. Et ça, c'est aussi parce que la correction des prix n'est pas encore suffisante au regard des taux d'intérêt toujours élevés. On est à 3,9% en moyenne aujourd'hui. Pour retrouver un niveau comparable de taux, il faut remonter en 2012. Et en 2012, Century 21 nous dit que les biens étaient entre 17 et 19% moins cher qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Léo. Et puis pour finir, on va vous parler du groupe qui fait l'actualité aujourd'hui dans le secteur des cosmétiques. Il s'agit du groupe catalan Puig. Ça s'écrit P-U-I-G, mais ça se prononce Puig. Un groupe qui détient entre autres les marques Rabanne, Nina Ricci ou encore Jean-Paul Gaultier. Le groupe va de record en record depuis 3 ans et il a annoncé ce matin vouloir se coter à la Bourse de Madrid pour lever au moins 2,5 milliards d'euros. Hélène Cornet.
Mi-février, Puig inaugurait une deuxième tour à Barcelone pour doubler la surface de son siège social, symbole de la réussite de ce groupe familial centenaire. Cela fait plusieurs années qu'il enchaîne les croissances à deux chiffres. Il a réalisé l'an dernier 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 19%. C'est largement plus que les objectifs qu'il s'était fixés en 2021, atteindre les 3 milliards. Dans son portefeuille, une marque se distingue tout particulièrement, Paco Rabanne, qui atteint pour la première fois le milliard d'euros de ventes. Son succès, il le doit à un marché porteur, celui des parfums, mais aussi à une diversification réussie. Il opère en effet dans le maquillage, le soin, la mode, qui à U3 représente 70% des ventes aujourd'hui. S'il fait figure de petit poussé par rapport à des concurrents comme L'Oréal ou Estée Lauder, Puig souhaite se faire connaître auprès des investisseurs. Son patron expliquait l'an dernier que ça obligerait le groupe à une meilleure discipline. La famille n'a pas pour autant l'intention d'en perdre le contrôle.
Et Hélène Cornet, puisqu'on parle des marchés, on y retourne.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Paris pour la première séance de la semaine. Le CAC rebondit, on gagne 0,72% à 8119 points. Rebonsoir Étienne Brack, vous nous avez rejoint en plateau. Vous allez suivre Puig désormais pour nous. Comment se passe la séance à Wall Street en tout cas aujourd'hui?
Eh bien, c'est bien plus calme qu'à Paris puisque vous avez trois indices américains qui font du surplace ou presque. Plus 0,1% pour l'indice S&P 500 au-delà des 5200 points. Idem pour le Nasdaq à 16264 points. Quand le Dow Jones est parfaitement stable à 38 917 points. Le tout après une semaine qui a été compliquée notamment pour le Dow Jones la semaine dernière qui a vécu sa pire semaine en l'espace d'un an. Donc après les records que l'on a connus, les nombreux records en début d'année, on a une certaine forme de latéralisation avant bien sûr la BCE jeudi, l'inflation qui est très attendue mercredi aux États-Unis avec Jamie Dimon, aujourd'hui le patron de JP Morgan, qui douche un petit peu les esprits, qui est très prudent par rapport à cette inflation et qui n'exclut pas notamment des hausses de taux pour cette année,
hein,
alors que le marché voit des baisses de taux. Donc vous voyez, après les records, il y a une certaine forme de prudence actuellement sur les marchés, avant aussi les résultats trimestriels. Ça va commencer vendredi aux États-Unis avec le secteur bancaire. À noter que les cours du pétrole baisse après notamment une poussée vendredi, hein, au-delà des 92 dollars pour le Brent pour la première fois depuis 5 mois. Aujourd'hui, c'est une baisse d'1% pour le Brent à 90 dollars quand le WTI, le baril américain, s'échange à 85 dollars. Et puis du côté des valeurs, s'il y en a une à retenir aujourd'hui, c'est Tesla qui gagne un peu plus de 5% au-delà des 173 dollars avec notamment Elon Musk qui a annoncé hier qu'il allait dévoiler un robotaxi.
Oui, c'est vrai.
Sans donner plus de détails. Alors, ça sera au mois d'août,
le 8 août
précisément. Voilà. Mais en tout cas, ça fait rebondir le titre Tesla après un parcours très compliqué depuis le début de l'année.
Ouais, et toujours aussi volatile. Merci, merci beaucoup, Étienne Brack. 19h15, on marque une pause et dans un instant, nos experts arrivent. On débat en direct sur BFM Business jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là en plateau avec nous en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Cyril Lachèvre, merci d'être là. Vous êtes fondateur de l'agence de communication Silence. À vos côtés Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, ancien rédacteur en chef d'Alternative Économique et face à vous, ou avec vous, on verra en fonction des débats. Charles-Henri Dovigny, bonsoir.
Bonsoir.
Managing Partner de Reputation Age. Messieurs, on va commencer avec cette séquence, on va appeler ça comme ça, autour de la politique industrielle européenne. Avec d'une part, d'abord ce matin, cette réunion entre Bruno Le Maire et ses homologues allemands et italiens pour fixer un cap pour l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Et puis on en parlera après, Bruno Le Maire qui recevait dans la foulée le ministre chinois du Commerce. Je vous propose d'abord d'écouter Bruno Le Maire à l'issue de la réunion ce matin avec ses homologues allemands et italiens. Vous allez voir, il appelle à une préférence européenne. On l'écoute.
Le deuxième sujet sur lequel nous continuons de débattre, c'est la préférence européenne. Je le dis, c'est un sujet de débat entre nous, mais sur lequel nous voulons avancer. Moi, je ne constate qu'une seule chose, c'est que le déficit commercial entre la Chine et l'Europe a été multiplié par 3 en 10 ans. Et donc, il faut, à mon sens, nous poser la question de savoir s'il ne faut pas réserver les marchés publics à des produits « made in Europe » ou d'avoir un contenu européen dans les appels d'offres de 40, 50 ou 60%, ou d'imposer des normes de qualité ou des normes environnementales qui soient celles les plus strictes sur les produits dans les marchés publics.
Voilà, des propositions
de Bruno Le Maire. Cyril Lachèvre, une préférence européenne, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
Alors déjà, Bruno Le Maire aurait pu préciser que le déficit commercial français avec la Chine a été multiplié par 8 en 20 ans. Donc c'est bien pire que les fois 3 de l'Europe.
Ouais.
La réaction européenne est intéressante aujourd'hui, mais il s'est quand même passé quelque chose, je pense, il y a une semaine, dans l'esprit des économistes en particulier, avec les déclarations du Premier ministre, un discours du Premier ministre chinois. Alors, il pèse plus grand-chose aujourd'hui, le Premier ministre chinois, mais quand même, ces discours sont bien validés, dans lequel il parle d'une croissance, d'une prévision de croissance de 5% cette année, mm-hmm. en 2024, et la même qu'en 2023. Et donc, les économistes ont fait un petit calcul avec une économie qui va très mal en interne à cause de l'effondrement du marché immobilier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils misent tout sur les exportations.
C'est ça.
Et là, effectivement, tout le monde se réveille sur les chiffres qui sont assez cataclysmiques si on les regarde froidement, avec des surcapacités énormes de la Chine dans le domaine du solaire.
Ça, on en a parlé.
De l'éolien et autres. Et donc, effectivement, il y a une crainte d'un tsunami et le mot est pas trop fort quand on regarde les stats effrayantes. Ouais. Et donc, quelque part, je vous aurais dit un autre jour que cette réunion à trois de ministres européens industriels, je pense que l'Europe n'est pas en avance sur beaucoup de sujets, mais s'il y en a bien un dans lequel elle a peu de chances d'avancer, c'est l'industrie, parce que vous ne pouvez pas faire plus différent qu'une industrie italienne, une industrie allemande et une industrie française. Sauf que là, au-delà des déclarations de Bruno Le Maire,
c'est un peu l'union sacrée face au tsunami.
Ouais, je pense que en l'occurrence, la position allemande est peut-être un petit peu, non pas en train de changer. Encore une fois, c'est pas aujourd'hui même qu'on le verra, d'autant que Olaf Scholz a dit qu'il allait en Chine à la fin de la semaine.
Tout
mais,
à fait.
Mais il se passe quelque chose parce que les Allemands sont en train de réaliser que leur principal client, la Chine, va devenir ou l'est déjà en train de devenir leur principal concurrent. Donc effectivement. Alors de là à dire protectionnisme européen, je pense qu'on en est très très loin, mais il se pourrait quand même qu'il en
soit en train de
se passer quelque chose d'intéressant.
Parce que là, pour le coup, c'est les mêmes armes que les Chinois et les Américains, des subventions, des produits locaux dans les appels d'offres, on joue avec les mêmes armes. Bien plus tard que les autres, mais
on n'est pas tout seul à
on
pouvoir...
dégaine les...
Enfin, on est...
Ah oui, bah là, après, il faut se mettre d'accord à 27.
Voilà,
enfin, si déjà on arrive à se mettre d'accord à 3, on aura peut-être presque fait le plus dur, Charles-Henri Dovigny.
Non, là-dessus, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Cyril, et je me dis, enfin, il y a une prise de conscience. C'est très important qu'à un moment ou à un autre, l'Europe se rende compte qu'on vit dans un monde où on a des concurrents, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, plus particulièrement. Là, avec l'IRA, les Américains ont bien montré qu'on allait pouvoir subventionner fortement leur industrie. Donc l'industrie américaine marche à plein régime. Le taux d'emploi aux États-Unis est extrêmement fort. Hein, je veux dire, c'est le plein emploi. Il y a 3% de taux de chômage aux États-Unis.
Ouais, 3,5, ouais.
Hein, donc, nous, en France, on est quoi, 7,8 taux de chômage. En Europe,
un peu moins, 7,5, mais bon, ouais, effectivement, c'est pas comparable.
Donc, c'est pas comparable. Il faut aussi prendre en compte maintenant aussi la politique de la BCE. Que fait la BCE pour permettre justement à nos entreprises d'investir et de s'industrialiser. Là, c'est le début d'une prise de conscience, et je pense qu'il était temps qu'on la prenne. Mais et après, il y a l'histoire des normes annoncées par Bruno Le Maire et
oui, là, c'est le cheval de bataille de Bruno Le Maire et de la Commission européenne aussi, qui disent c'est la faute aux normes. On est trop bureaucratique, ça aussi, on a l'air de le découvrir maintenant.
De quelles normes
et donc, du coup, ça nous plante la croissance.
Mais quelles normes de parle-t-on ? Puis à ce moment-là, mettons une réciprocité. Si c'est des normes écologiques que l'on impose à nos industriels, bah, mettons des barrières normatives.
Alors ça, on va en parler parce que c'est le point clé de la proposition, effectivement, du ministre. Mais d'abord, je voulais vous faire réagir là-dessus, Guillaume Duval. Charles-Henri Dovigny dit enfin une prise de conscience. Mais c'est enfin ou trop tard ? Parce qu'enfin, ils ne nous ont pas attendus, nos amis chinois et américains.
J'allais dire justement, mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que c'est très tard. Et en particulier...
Il y a encore quelque chose à sauver.
Oui, c'est un peu la difficulté, en particulier sur toutes les entreprises du secteur de l'énergie renouvelable, qui sont déjà dans une situation très difficile, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque en Europe, dans l'automobile, qui est déjà dans une situation très difficile. Donc là, il faudrait effectivement un effort majeur. Mais est-ce qu'on est capable, en particulier, de faire le type de choses qu'on évoque à propos de l'IRA ? Là, pour l'instant, on est en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train train de serrer la vis partout sur le plan budgétaire. On a une politique monétaire qui est assez restrictive quand même dans l'ensemble. On ne prend pas le chemin, en tout cas, d'aller au-delà des déclarations. Je pense que Bruno Le Maire en a déjà fait trois ou quatre, une dizaine sans doute, de très similaires, sans qu'elles se soient suivies d'action pour l'instant. Et le problème, c'est est-ce qu'on met les moyens sur la table ou pas ? Et là-dessus...
Est-ce que l'Europe a les moyens de mener une politique protectionniste les Américains, comme les Chinois ? C'est ça, à la fin, comme vous dites le fond du problème.
Sur les 700 milliards de Next Generation EU qu'on avait
emprunté ensemble... Ça, c'était le plan de relance européen post-Covid.
Il semblerait qu'il y en ait 500 milliards qui n'aient pas été dépensés pour l'instant. Enfin, c'est ce que je disais ce matin dans la presse. Et on n'est pas capable de donner une suite à ce projet. On est confronté à une guerre qui nous handicape... qui pose des problèmes de sécurité majeurs, mais qui nous handicape aussi économiquement. Exactement, et on n'est pas capable, face à cette guerre, de refaire ce qu'on avait commencé à faire face à la pandémie. Alors, est-ce qu'on ira au-delà des grandes déclarations sur ces sujets-là et est-ce qu'on mettra les moyens ? Je ne sais pas.
Ouais. Cyril ?
L'Europe, par nature, n'a pas été conçue comme ça. Enfin, l'Union européenne a été voulue comme ouverte sur le monde dans le cadre de... il n'y a qu'à voir la politique de la concurrence qui est menée, qui est probablement la plus sévère au monde. On en pense qu'on en veut, mais c'est la réalité. Pour justement empêcher tout grand groupe d'émerger et pouvoir tenir la dragée haute aux autres super puissances chinoises et américaines. Donc effectivement, ça va bien au-delà même des déclarations d'intention. C'est une remise en cause totale des fondements sur lesquels on a aujourd'hui bâti cette Europe depuis le traité de Rome. Mais effectivement, le monde a considérablement changé depuis 1957 et donc il va falloir quand même prendre des vraies mesures. Mais regardez déjà les débats sur l'Europe de la défense, qui pourrait être une forme de souveraineté ou d'industrie qu'on pourrait créer nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas du tout la même approche entre les pays. Et pourtant, la guerre est à nos portes. Donc, quelque part, même devant l'urgence, on voit qu'on est incapable de réagir. Donc là...
Et alors, vous disiez tout à l'heure, Charles-Henri, l'angle d'attaque de Bruno Le Maire, c'est l'écologie. Dire, effectivement, on ne peut plus faire entrer sur notre marché des produits qui ne sont pas à nos normes. Décarboner l'Europe ne doit pas tuer notre industrie. Est-ce que c'est le bon angle d'attaque, effectivement, vis-à-vis des Chinois ? Ça veut dire très concrètement refuser des bonus aux produits qui ne respectent pas nos normes, comme on le fait sur les voitures électriques, et potentiellement demain sur les panneaux solaires. Là aussi, Bruno Le Maire l'a dit vendredi. Est-ce que l'écologie, ça peut être... La bonne trouvaille, la bonne recette pour se défendre?
C'est un début. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tous les cas, il faut, à un moment ou à un autre, avoir ce système de réciprocité. On ne peut pas vivre dans le monde actuel sans cette réciprocité. Sans ça, on va à la catastrophe. Les industries américaines ou les industries chinoises n'ont pas les mêmes règles que nous. Nous, on va s'imposer des super règles écologiques, notamment. On a aussi des super règles sociales, mais bon, ça, on ne va pas y revenir dessus. On en reposera peut-être tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais là, sur l'écologie, c'est quelque chose sur lequel les populations européennes sont, quand même, quand on regarde les sondages, assez d'accord pour qu'on progresse.
Oui, là, pour le coup aussi, il y a eu la prise de conscience.
Pour qu'on progresse. Et il faut que l'ensemble de la planète s'y mette. Et après, on va parler aussi de l'Inde à ce moment-là, parce que c'est aussi
un
sujet. Donc, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des industries qui doivent respecter à minima des règles.
Guillaume Duval, il y a le fond, ce dont on parle depuis une dizaine de minutes, mais on peut pas s'empêcher aussi de penser aux élections européennes dans 2 mois. Est-ce que tout ça, ça ressemble pas quand même aussi à de la communication politique, à de l'agitation politique à 2 mois des élections? Ou est-ce qu'il y a quand même fondamentalement là quelque chose qui est en train de changer dans les fondamentaux de l'Europe ?
Il y a les deux, c'est-à-dire que effectivement ça a sans doute des visées électorales, mais c'est aussi parce que effectivement la pression sociale et la pression des citoyens européens est très forte là-dessus. Je ne crois pas qu'il faille considérer que l'environnement pourrait être un prétexte pour faire du protectionnisme. C'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Si on veut réellement que les citoyens adhèrent à ce qui est nécessaire en termes de transformation écologique de nos économies en Europe, on doit pouvoir leur garantir que ça n'atteindra pas leurs emplois et qui vont pas se retrouver submergés par des trucs qui sont fabriqués avec d'autres normes. C'est vraiment la condition de base pour qu'on puisse réussir ça, et il faut absolument réussir ça.
Ouais. Cyril Lachève, d'un mot pour conclure. Là, c'est un petit peu une feuille de route que donnent les trois plus grands pays à la prochaine commission. Parce que là, Ursula von der Leyen, elle brigue un deuxième mandat. Est-ce qu'elle a réussi le premier, d'un point de vue économique et industriel? Ou est-ce que quand on voit ce genre de conférence de presse, on se dit que...
C'est un ratage total. Enfin, je veux dire...
Ah oui, d'accord.
Je prends un exemple. La guerre en Ukraine a commencé il y a 2 ans. On a eu un choc énergétique d'une violence rare. On a beaucoup parlé de, il faut faire une politique énergétique européenne. Vous en avez vu l'once d'un début d'une politique énergétique.
On a les achats en commun de gaz.
Mmh. Oui. Bon, non, moi je veux dire, sur l'histoire.
On est arrivé à se défaire la dépendance russe au gaz. Mmh. Pour le coup.
Oui, mais enfin, c'est vraiment un des domaines où une stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait sur... Quels sont les choix? Enfin, on a l'impression de revenir en permanence en arrière. Non, moi, simplement sur l'écologie, reprenons un exemple très concret. L'obligation d'avoir que des voitures électriques à partir de 2035.
Ouais.
On reprend la Chine. Les chiffres, je vous l'ai dit, sont absolument monstrueux. Ils produisent 4,8 gigawattheures de batteries électriques, ils en consomment 1,2. Donc il y a 3,6 gigas qui se baladent dans la nature.
C'est les trois quarts de la production.
Ça écrase littéralement tout ce qu'on ne pourra jamais produire en Europe. On fait comment? Si on veut absolument avoir les voitures électriques en 2035, on fait quoi? Pour qu'elles soient pas chères, on est obligé d'acheter des produits chinois quelque part. Donc bien sûr, on va... Évidemment, là, la question du jour, c'est pour ça que finalement, c'est bien ces mots aujourd'hui, mais concrètement, c'est quoi les prochaines décisions?
Bon, j'ai pas la réponse, hein, faut pas me regarder comme ça.
Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui à Meudon.
En tout cas, on a ça, les élections en ligne de mire et on va voir comment tout ça évolue. 19h30, pour l'heure, je vous redonne le rappel des titres.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Henri Dovigny, excusez-moi, Guillaume Duval et Cyril Lachève. Messieurs, on passe maintenant à l'autre actu du jour. La réunion qui se tient en ce moment, qui a peut-être s'éternisé toute la nuit sur l'emploi des seniors. Les partenaires, c'est la réunion de la dernière chance là pour trouver un accord sur cette question plus large même que l'emploi des seniors. C'est ce que le gouvernement a appelé le nouveau pacte de vie au travail. Mais quoi qu'il arrive, alors déjà, ça fait 3 mois qu'ils négocient, ils ont beaucoup de mal à trouver un accord, mais quoi qu'il arrive, on sait que, entre guillemets, tout ça va être jeté à la poubelle, puisque le gouvernement veut faire une 4e réforme. Est-ce que, le fait que les partenaires sociaux aient autant de mal à se mettre d'accord, est-ce que ça donne raison, quelque part, au gouvernement de vouloir reprendre la main? Guillaume Duval.
C'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il est tellement clair que le gouvernement va s'asseoir sur ce qui va être négocié que c'est pas forcément la peine de se fatiguer à trouver réellement un accord. Donc tout le monde a compris depuis 2017 maintenant que Emmanuel Macron considérait qu'il était le seul à pouvoir décider de toute la politique de la France dans le domaine social, que les négociations sociales ça servait à rien, les syndicats n'avaient pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. Le patronat, il était très écouté, mais on ne voulait pas qu'il négocie pour autant. Donc là, il ne faut pas s'étonner si les négociations, dans un contexte comme ça, deviennent difficiles, n'aboutissent pas, etc. Il est clair qu'à la fin, c'est le ministère des Finances et Emmanuel Macron qui vont décider sur ce qu'on va faire dans ces domaines-là. Malheureusement, on avait eu, depuis 2000, des tentatives assez fortes qui avaient été faites par la droite d'ailleurs de revaloriser la négociation sociale, hein, donc il y avait la loi Larcher, il y avait des choses comme ça qui avaient été mises en place dans la première décennie 2000. On avait l'impression qu'il y avait un certain consensus en France pour aller dans le sens, disons d'une social-démocratie où on associe les partenaires sociaux à la définition des politiques publiques. Emmanuel Macron a fichu tout ça en l'air sans pour autant bien gérer les finances publique par ailleurs, mais on en discutera sans doute tout à l'heure. Donc là, après, il se retrouve tout seul à décider de tout. Voilà.
Tiens, la chef, c'est une perte de temps.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. C'est une perte de temps, je sais pas, mais ce qui est très frappant, c'est que, alors effectivement, le dialogue social à la méthode de Emmanuel Macron s'est fait réduit à portions congrues. Ce qui serait amusant pour le coup, ce serait, c'est du point de vue communication ou éventuellement tactique politique, même si c'est très prétentieux comme terme, ce serait bien qu'ils trouvent un accord ce soir, les partenaires sociaux, juste pour effectivement, parce qu'en fait, le gouvernement on attend que ça, qu'il trouve pas un accord parce qu'il va s'appuyer sur.
Oui, mais si c'est un accord à minima, c'est un peu de faiblesse aussi.
C'est simplement pour, justement, parce que de toute façon, c'est un jeu de rôle et que, comme l'a dit Guillaume, le gouvernement repassera derrière. Après, est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, je parle de la forme. Il se fiche complètement de ce qui est en train d'être discuté, négocié. Et le fait est que maintenant, les partenaires sociaux.
Non, mais quel choix politique ça peut être d'afficher un accord à minima, puisque les patrons et les syndicats sont d'accord sur rien, Caroline Morisseau l'expliquait. Bah, quelle valeur politique ça a de dire, regardez, on a
c'est juste pour obliger le gouvernement à redire, redire publiquement qu'il veut lui-même faire un accord et donc en quelque sorte enjamber à nouveau le dialogue social. C'est juste pour quelque sorte conforter cette idée que finalement il laisse pas les partenaires sociaux s'exprimer. Après, le fond est beaucoup plus important, je pense, mais ça, l'emploi des seniors, c'est un vrai sujet fondamental. Mais je parlais juste de la forme.
Charles-Henri Daubigny.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cyril. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'il est bon que les partenaires sociaux tombent sur un accord. Parce que on a besoin de ça, on a besoin de dialogue, on a besoin de dynamisme un peu dans les entreprises, et que montrer qu'il y a des antagonismes permanents qui vont l'un contre l'autre, c'est pas très bon dans une période où on vit une période quand même très compliquée. Je veux dire que on le rappelait tout à l'heure, la guerre est à nos portes. Il faut qu'on réindustrialise, il faut qu'on trouve. Il y a le problème de formation, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'entreprise est là aussi pour porter l'emploi, porter le dynamisme économique, et il n'y a pas que les patrons qui peuvent le faire, c'est aussi avec les salariés. Donc je pense qu'il est bon que les partenaires sociaux se mettent d'accord ce soir. Peut-être un minima, mais en tous les cas, qu'ils se mettent d'accord.
Ça, on verra un signal.
Est-ce que le gouvernement prend un risque pour la suite du quinquennat de braquer, alors c'est pas nouveau, vous le disiez, Guillaume Duval, mais de braquer à ce point les partenaires sociaux? Ou est-ce que finalement c'est assez indolore?
Cyril, je pense que les Français savent maintenant à quoi s'en tenir par rapport à Emmanuel Macron sur sa manière de gouverner, etc.
C'est pas le premier.
Mais
oui, enfin, Nicolas Sarkozy s'était un peu assis aussi sur les camps intermédiaires.
Au début non, mais à la fin, au moment de la crise de 2008-2009, oui. Mais est-ce que c'est bon pour le pays et pour son avenir? C'est ça surtout la question. Est-ce que une gouvernance bonapartiste de ce type-là, c'est ce qu'il faut au 21e siècle? Je crois pas du tout. Je pense que on est dans un monde où les gens sont plus éduqués, ont envie d'avoir leur mot à dire dans les entreprises, dans la politique publique en général. C'est pas du tout le chemin qu'on prend avec Emmanuel Macron, et c'est un chemin qui nous conduit, je pense, dans le mur. D'ailleurs, on est en train de le voir sur les finances publiques, mais on y reviendra.
Le public, c'est un vaste sujet, Cyril.
Là encore, même si cet accord-là dont on discute, dont sont en train de discuter les partenaires sociaux, il est clairement pas fondamental et il est très loin du but, à tous les niveaux. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait dans les trois prochaines années pour essayer de bâtir une politique économique partagée, un constat partagé pour à minima corriger les problèmes qu'on est en train de rencontrer sur les finances, en termes de finances publiques, et effectivement après dans un monde idéal, comment on fait pour s'attaquer aux vrais problèmes de formation, d'employabilité, etc. Donc si on fait pas avec les partenaires sociaux d'une manière ou d'une autre, je vois pas comment on va y arriver. Donc je veux dire, s'asseoir sur les accords, y compris ceux minimalistes qui sont en train de discuter, encore une fois, à supposer qu'ils tombent sur un accord, c'est un mauvais signal dans tous les cas de figure. Donc, au contraire, il faudrait inverser la tendance maintenant et vraiment travailler avec les partenaires sociaux. Quoi qu'on en pense, il n'a plus rien à perdre de toute façon.
Essayer tout le temps de piquer le fric des partenaires sociaux, piquer le fric de l'Union.
La cagnotte de la Gécarco. Charles-Henri Daubigny.
Si on trouve un accord, il y a un vrai sujet, c'est quand même. Moi, j'ai regardé des chiffres. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Le travail dégringole en 21 ans de 36 points auprès des Français. En 1990, 60% des Français considéraient que le travail était très important. En 2021, c'est les derniers chiffres que j'ai réussi à trouver, ils sont plus que 24% à l'affirmer. Donc c'est essentiel qu'on remette le travail au cœur du système, et que justement... Le travail, c'est une entreprise. Et c'est du capital, c'est des salariés, c'est des clients, c'est des fournisseurs. Et c'est une vie en commun.
C'était tout le sujet, justement, je disais, c'était pas que l'emploi des seniors, c'était le pacte de vie au travail, c'était tous les sujets que les syndicats voulaient en contrependant la réforme des retraites. Il disait tout ça aurait dû être aussi dans la réforme des retraites parce que c'est un tout, c'est le travail au sens large. Toutes ces négos, ça devait être justement le pendant de la réforme des retraites de l'an dernier et finalement ça va accoucher d'une souris. Donc là, pour le coup, c'est factuel, le compte n'y sera pas, quoi. Là-dessus.
Si tout le monde est d'accord pour, enfin les entreprises pour mettre les seniors à la porte et les seniors eux-mêmes plutôt préférer le chômage pendant 3 ans que de rester dans des mauvaises conditions.
Bah, là, pour le coup, non. Il y a beaucoup de seniors qui préfèrent travailler que d'être mis au chômage.
Oui. Énormément même. Mais se contenter de ça, c'est quand même beaucoup parce qu'on est un pays, effectivement, où les conditions de travail sont très difficiles dans les entreprises. Parce que, notamment, il y a peu de dialogue social dans les entreprises elles-mêmes.
Bon. Puisqu'on parle de dialogue social et d'entreprise, on passe à la question de la rémunération des grands patrons. Il y a la saison des AG qui commence demain, ça va être Vinci. Et ce week-end, trois agences de conseil agences de conseil en vote auprès des actionnaires sont sorties du bois pour appeler les actionnaires à voter contre la rémunération de Carlos Tavares. C'est toujours lui qui fait parler au moment des AG parce que c'est lui de loin qui est le mieux payé en France, enfin en tout cas l'un de ceux qui sont les mieux payés. Là, le board propose une rémunération de 36 millions d'euros. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Ben alors, Charles-Henri de Villiers, on va commencer par vous. Est-ce que Carlos Tavares vaut 36 millions d'euros ?
Le problème, c'est est-ce qu'il les vaut ou il ne les vaut pas ? Est-ce que Mbappé vaut 70 millions ?
Ah ben alors, ça, c'est la question. Non, mais à chaque fois qu'on... Oui, voilà. On revient toujours à ça. Carlos Tavares, c'est le Kylian Mbappé de l'automobile.
Ben oui, mais en fait...
Et de l'industrie française.
En fait, il y a un vrai sujet, c'est le coefficient émotionnel. Je veux dire que mercredi soir, Paris gagne contre Barça... Tout le monde, tous les Français vont applaudir et vont être ravis que Mbappé ait marqué un but ou fait la passe décisive pour que Paris gagne contre le Barça. Maintenant, Carlos Tavares, son coefficient émotionnel vis-à-vis de l'ensemble de la population, il est 0. En revanche, est-ce qu'on Elon Musk, il a un coefficient émotionnel beaucoup plus fort et personne ne vient critiquer sa rémunération.
Même chose. Alors la juge de Delaware, elle a pas jugé comme vous, hein, en l'occurrence. Il a dû même quitter le Delaware en retoquant sa rémunération. Alors là, pour le coup, je sais pas combien. Milliards, c'était pas 36 millions.
55 milliards.
Ouais.
C'était 50.
Et 36 millions de Carlos Tavares, là, c'est le pourboire. Là.
Oui, mais alors, en l'occurrence, c'était pas du tout le même sujet.
C'était
des actions.
Ouais, bien sûr.
C'est pas du tout la rémunération.
Non, mais c'est contesté aussi, c'est ça que je veux dire.
Oui, oui, oui. Mais je parle dans l'opinion publique.
Oui, oui.
De l'opinion publique, comment on accepte que quelqu'un puisse être rémunéré autant. Voilà.
Et donc, non, mais là, c'est pas l'opinion publique, c'est les actionnaires. C'est les actionnaires.
Donc là, les actionnaires.
Trois agences de conseil qui sont actionnaires et qui disent c'est trop.
Alors, sur les 36, il y en avait 13 qui sont des actions, donc qui, à terme, seront versées, mais qui pourront valoir moins. Vous avez un bonus de 11,4 millions pour la bonne performance. Vous avez son fixe qui est 1,5
million. 2 millions. Ouais, le fixe n'a pas bougé. Depuis 3 ans, c'est 2 millions. Mais effectivement, tout le reste, c'est du variable.
2 millions, voilà. Et le reste, il y a une prime de 10 millions pour la réussite de sa transformation. C'est là où le bas blesse, où à un moment ou à un autre, il a fait son job.
Oui, c'est ça.
Et que ça pourrait être inclus
dans le fixe.
Dans le fixe ou dans le bonus. Hein. Je veux dire que c'est un peu la même chose. Mais bon, il a signé un contrat de travail. Et à un moment ou à un autre, il faut bien l'honorer. Moi, je me souviens, c'était donc il y a 2 ans, où les actionnaires avaient refusé. Sa rémunération.
Et même Emmanuel Macron avait dit c'est choquant, et j'essaie de retrouver ces mots, que c'était très choquant. Ça avait fait partie des sujets de la campagne présidentielle.
55% des actionnaires avaient refusé. Alors, comme Stellantis est coté à Amsterdam, c'était un avis consultatif. Alors qu'en France, les actionnaires, c'est du say on pay.
Oui, c'est bloqué, oui.
Ah oui, tout à fait. Depuis Carlos Ghosn. Voilà. Donc. Là, en l'occurrence, les actionnaires vont encore décider la prochaine AG, et on verra bien ce que fera le conseil d'administration. Parce que, est-ce que le conseil d'administration va s'asseoir sur la décision des actionnaires ?
C'est ce qu'il a fait il y a 2 ans. Ouais. Et l'an dernier, pour le coup, ça avait été approuvé.
Et l'année dernière, ça avait été approuvé. Oui, parce que ça avait été expliqué.
Ouais.
Il a fait une vraie campagne de
com. Alors,
Guillaume
Duval.
Non, mais... Oui. Je crois que la comparaison avec Mbappé, avec des artistes, etc., ça tient vraiment pas la route. C'est-à-dire que la caractéristique principale d'une entreprise, c'est que c'est une œuvre collective. C'est qu'on ne sait pas distinguer ce que le patron apporte par rapport à un autre salarié. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr pour moi, c'est qu'un patron, il n'apporte pas 1700 fois ce qu'un smicard apporte à une entreprise comme ça. Le patron de Toyota, il gagne 2,9 millions d'euros, c'est déjà énorme. Mais pour autant, Toyota est quand même beaucoup plus important et ne se porte pas forcément plus mal que Stellantis aujourd'hui. Hein. Donc, croire qu'il faille rémunérer un patron à 36 millions, c'est juste qu'il est capable, lui, de manipuler son conseil d'administration pour obtenir cette rémunération-là. C'est pas du tout parce que c'est indispensable pour l'entreprise. Au contraire, je pense que c'est très négatif pour l'entreprise si les ouvriers ont le sentiment que leur travail sert surtout à engraisser le patron et à pas à faire progresser l'entreprise dans son ensemble.
Je précise qu'il y a aussi quasiment 2 milliards d'euros redistribués aux salariés, justement, en prime. Ça fait 4 000 euros à peu près par salarié au titre des résultats records de l'an dernier. Cyril Lachèvre.
C'est un peu ce que j'allais dire. C'est très difficile de mesurer finalement le salaire d'un dirigeant, quel qu'il soit. Là, si on est dans des sommes astronomiques, évidemment.
Là on vient vraiment dans la loi du marché pur et dur. En gros, c'est la loi du marché.
Stellantis vend 6 millions de voitures. Ça fait 6 euros par voiture pour le salaire de Carlos Tavares. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose quand on le dit comme ça, mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, intuitivement, de se dire 6 euros pour un produit qu'on achète, même si c'est un produit à plusieurs milliers d'euros, évidemment, une voiture, c'est pas une canette de boisson, mais je veux dire, c'est beaucoup, oui, dans l'absolu, c'est beaucoup, et c'est énorme, évidemment, aux yeux du grand public, et c'est difficile à défendre en termes de communication, quels que soient les arguties qu'on trouve. Moi, ce qui me surprend d'un point de vue technique, c'est que je suis quand même surpris, vous l'avez cité, c'est 2 millions de salaires fixes, bon, qui ne bougent pas depuis 3 ans. Je suis surpris qu'on puisse avoir un tel écart entre un salaire fixe c'est et vrai. Un salaire variable dans l'absolu. Aussi, ouais. Et je me demande si, enfin, pour essayer
pas du salaire.
Non, voilà, c'est ça.
Les 13 millions, les 13 c'est millions ça, d'actions, c'est pas du salaire. Ouais.
Non, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est là-dessus qu'il y a du travail à faire, probablement. J'ose même pas dire de pédagogie, mais tout simplement d'explication sur quelle base de calcul. Alors, moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'aux actionnaires, ça sera présenté. Sur quelle base, enfin, comment est-ce qu'on peut estimer que la fusion réussie, ça vaut 10 millions d'euros et pas 11 millions ou 9 millions. Peu importe. Là, j'ai un point de vue un peu mathématique. Je suis désolé, mais quelque part, c'est ça. Et effectivement, de mon point de vue, tant qu'on n'y arrivera pas, ça donne l'impression d'être au doigt mouillé, d'être entre personnes du conseil d'administration et ces 10 millions parce que j'ai demandé 10 millions et que j'ai 10 millions. Après, c'est la loi du marché, toutes ces choses-là, c'est pas le problème. Mais je trouve que ça, pour le coup, c'est très déstabilisant parce que moi, je ne sais pas apprécier.
Oui, d'où viennent ces chiffres?
Une prime variable, je suis de ce montant-là, je ne peux pas l'apprécier.
Ouais. Mais après, quelque part, c'est une entreprise privée, ça les regarde.
Ah bah totalement, oui, ça
va. Oui, c'est pour ça que je dis qu'à un moment ou à un autre, c'est aux actionnaires de décider.
C'est l'actionnaire qui décide.
Et à prendre son risque social, pour le coup.
Et c'est aux actionnaires. Maintenant, encore faut-il que le conseil d'administration tienne compte de l'avis de ces actionnaires. Parce qu'il y a 2 ans, ils se sont assis sur le vote des actionnaires.
Ouais. Bon, mais vous l'avez dit, c'est consultatif.
Ouais. Mais il serait coté à Paris, que là, ça serait décisif.
Oui,
mais voilà.
Exactement. Ce chiffre aussi, pour se donner un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que ce que gagne Patrick Pouyanné chez Total. Et on parle d'une des majors mondiales du pétrole.
Honnêtement, Carlos Tavares est un patron impressionnant dans sa catégorie. Enfin, même au-delà de l'automobile, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'il a fait de Stellantis. C'est incroyable. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut 36 millions? Je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai pas les éléments pour. Mais en tout cas, le fait est que là-dessus, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire,
il y a
une
vraie réussite quand même.
Oui. C'est certain. Et effectivement, alors après,
vous êtes d'accord là-dessus, Guillaume Lurel, c'est une réussite, chez Stellantis.
C'est une entreprise qui partait d'une situation très difficile, c'est sûr.
Et qui vient.
Mais comme je vous l'ai dit, quand on voit ce que gagne un patron japonais par rapport à ça, ça pose quand même des
mais
questions.
Alors, vous parlez de la concurrence.
18 milliards, c'est quand même 18 milliards de bénéfices. Hein.
C'est le plus gros bénéfice du CAC.
C'est certain.
Juste derrière Total. Mais ce que dit le board, c'est qu'aujourd'hui l'automobile c'est une des industries la plus compliquée au monde en fait.
Oui,
il y a une telle concurrence avec Musk, Tesla, les Chinois qui cassent les prix, les marques allemandes historiques, les Japonais, que réussir dans ce que Tavares a perdu justement, cette guerre darwinienne, c'est très 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 dur et donc ça doit être très très bien payé.
Vous êtes
d'accord avec cette présentation des choses
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire toujours très gaffe aux résultats à court terme par rapport à ce que ça donne sur le moyen terme. C'est facile, non, c'est pas facile. On peut en coupant les coûts, dégager des bénéfices importants une année. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a dépensé suffisamment en R&D, en nouveaux modèles, etc., pour que dans 5 ans, ça marche toujours. Là, je ne sais pas l'apprécier pour Stellantis, mais il faut
mais là,
pas
ça
s'arrêter.
Fait plusieurs années que les résultats sont excellents. Ce n'était pas juste l'an dernier. L'an dernier, c'était encore mieux, mais ça fait plusieurs années que le trend est très très bon, quoi.
Ouais, donc c'est aux actionnaires de décider.
Oui, ça c'est sûr.
Enfin, en théorie, malheureusement.
Le mot de la fin là-dessus pour vous, si vous êtes d'accord pour dire que l'automobile c'est vraiment une des industries. On parlait tout à l'heure de voilà des panneaux solaires, ça s'est écroulé, les éoliennes, ça s'est écroulé en Europe. Est-ce que là on a une industrie européenne menacée? Alors Stellantis maintenant c'est très américain, mais est-ce qu'il fait quand même un sacré job et ça mérite du coup une rémunération un peu hors norme?
Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est d'autant plus difficile de piloter une industrie automobile en Europe, un constructeur automobile en Europe, qu'on n'a pas forcément la main sur le volant et qu'on est presque en pilotage automatique, guidé par ces fameuses normes, ces fameuses injonctions de faire que des véhicules électriques en 2035. Carlos Tavares, c'est pas le plus fan de cette mesure.
Ah non, loin de là, il a
le courage de ses opinions. On en pense qu'on en veut derrière, mais au moins il le dit publiquement. Donc effectivement, oui, c'est une industrie très compliquée, mais elles le sont toutes, très honnêtement, elles le sont toutes.
Ah voilà, c'était ça ma question, ouais. Pas l'automobile plus qu'une autre finalement.
L'industrie pharmaceutique est aussi très compliquée. Il faut regarder aussi, par exemple, si on compare Renault, qui maintenant sort des résultats largement positifs par rapport à Nissan. Donc Luca De Meo est en train
d'ailleurs Renault depuis aujourd'hui vaut plus que Nissan en bourse.
Donc Luca De Meo est aussi en train de réussir. Donc tant mieux que l'industrie européenne et automobile puisse progresser et avoir des patrons quand même assez charismatiques. Luca De Meo aussi est un patron tout à fait charismatique et qui est en train de redresser la barre.
Va renégocier sa rémunération pour le prochain mandat puisqu'il va bientôt être renouvelé là, les prochains mois, la prochaine AG. Allez messieurs, on a fait le tour de la question en tout cas pour ce soir, on passe à l'extra time, c'est déjà les arrêts de jeu de Good Evening. Je commence avec vous, Guillaume, votre coup de cœur ou coup de gueule de l'actu en 30 secondes.
C'est pas un coup de gueule, mais il y a 130 magistrats qui viennent de signer un appel pour demander au gouvernement de faire le nécessaire pour la lutte contre l'évasion fiscale, pour développer effectivement la lutte contre les paradis fiscaux, etc. En France. Je crois que c'est un appel qui est bienvenu dans le contexte budgétaire où on est aujourd'hui et je suis pas sûr qu'il soit entendu pour l'instant par le gouvernement sur ce terrain-là.
Même si, d'après Gabriel Attal, Premier ministre, ancien ministre du budget, les redressements pour fraude et autres évasions fiscales ont atteint des records l'année dernière. Le message est passé. Cyril ?
Alors moi j'ai un petit coup de gueule, le sujet est grave, suite à la publication de l'étude annuelle de Heidrick Ansregel, le cabinet de recrutement de dirigeants, sur le nombre de femmes directrices générales dans le monde, sur les groupes cotés, on est passé de 7% à 8%. Péniblement, si je peux dire, en un an. Au niveau mondial, alors en France, on peut être fier, on est à 8%, on n'a pas bougé. Alors effectivement, on a 3 femmes maintenant dans le CAC 40, donc là, on en est de plus en plus fier, mais c'est un petit peu malheureusement l'arbre qui cache la forêt. Donc là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup, beaucoup de voilà, on en parle énormément, mais je trouve qu'on ne fait pas beaucoup.
Bon, on a des lois qui passent, mais effectivement, il y a encore du chemin à parcourir. Le mot de la fin pour vous, Charles-Henri Dovigny.
Ah oui, là, moi, je voulais parler des taxes lapins.
Ah, ok.
Voilà, parce que j'ai l'impression...
Vous honorez vos rendez-vous, rassurez-moi.
Je les honore, et surtout, alors, à un moment ou un autre, on passe beaucoup de temps à attendre que le médecin veuille bien nous recevoir. On attend à peu près entre une demi-heure et 50 minutes, et généralement, le médecin ne s'excuse jamais. Bon, ça, c'est dit. Maintenant...
Vous n'allez pas chez les bons.
Si. mais maintenant... Quelle usine à gaz va-t-on mettre en place pour faire cette taxe? Alors qu'en fait, il y aura un truc très simple, ça se fait en Allemagne. Mmh. Au moment où vous prenez rendez-vous, vous payez 5 euros.
D'accord.
Et c'est déduit.
Alors c'est tout l'inverse de la taxe, là, pour le coup.
Quoi? En Allemagne, vous payez 5 euros quand vous prenez rendez-vous.
D'accord. Et, c'est marrant, on verse des
arts. Et si vous n'y allez pas, derrière, vous les perdez.
Ok, on va chez le médecin comme à l'hôtel. Bon, effectivement, j'avais pas pensé à renverser le problème. Merci à tous les trois, Charles-Henri Dovigny, Cyril Lachèvre et Guillaume Duval. Merci d'avoir débattu avec nous ce soir dans Good Evening. C'est déjà fini, on se retrouve demain en direct à 18h avec Guillaume Paul. L'émission, évidemment, si vous nous avez raté en direct, est à retrouver sur l'appli BFM Business. Vous nous écoutez en replay et en podcast quand bon vous semble. Et dans un instant, toute l'actu de la tech. Là aussi en direct avec François Sorel dans Tech & Co. Bonne soirée.
Good Evening Business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.